Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous allons ouvrir ensemble l'évangile de Luc au chapitre 23, à partir du verset 26 au verset 48. Et je vous propose une lecture qui nous amène au moment où Jésus sera amené à être sacrifié à la croix. Ce texte fait partie, bien évidemment, d'un parcours que Christ a entamé bien avant qu'il soit venu sur terre. Parce que la volonté du Seigneur, c'était d'accomplir la volonté de Dieu le Père. Mais sur terre, nous avons vu la partie visible. Mais on oublie toute la partie qui était cachée à nos yeux, parce que sans la sagesse de Dieu, nous ne pouvons rien voir. Combien de fois Dieu a parlé à son peuple pour l'amener au salut? Et finalement, combien de fois le peuple il s'est retiré de la présence de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il s'est tourné vers l'idolâtrie, il s'est tourné vers le péché, il s'est tourné vers toute autre chose que Dieu lui-même. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé son Fils pour délivrer, pour relever et pour annoncer le Père. Jésus dira, Père, je vais annoncer ton nom. Et encore ce soir, par les actes que Jésus accomplira à la croix, il nous parle du Père, il nous parle de l'amour que Dieu le Père a pour nous. Jean chapitre 3 verset 16, tout le monde le connaît. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse le dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en lisant ce texte de l'Évangile, il y a un mot qui a retenti dans mon cœur. Et ce soir, j'aimerais vous amener à envisager ensemble les actes de la croix. Qu'est-ce que la croix a produit? Mais faisons ensemble la lecture de l'Évangile de Luc qui nous dit ceci. « Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, ils raillèrent Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. « N'est-ce pas le Christ ? « Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre lui fit des réponses et dit, « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà à la sixième heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ceux qui étaient arrivés, glorifia Dieu et dit, « Réellement, cet homme était juste. » Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ceux qui étaient arrivés, s'en retournèrent et se frappèrent la poitrine. Amen. Quand je lisais ce texte ce matin, je suis tombé sur ce mot que cet homme dira alors qu'il est à la croix, sur un des côtés de Jésus. Il est là, il a été mis et condamné à cause de ses actes. Et c'est ce qu'il dira, nous sommes là à cause de nos actes. Mais lui, il n'a rien fait. L'importance de nos actes, l'importance de nos décisions, l'importance de nos paroles, l'importance de tout ce que nous faisons ou nous disons. Peut-être que pour certains, ça n'est pas si important que ça, une parole parmi toutes les paroles, mais aux yeux de Dieu, chaque mot, chaque acte compte. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus, il est justement considéré comme celui qui n'avait rien fait de mal. Est-ce que nous pouvons dire, nous, la même chose pour nous-mêmes ? Est-ce que quelqu'un peut dire « je n'ai rien fait de mal » ? Peut-être là, dans le quart d'heure qui vient de se passer, peut-être dans la demi-heure, peut-être dans la journée, ah, encore mieux, allez, dans la semaine. Mais est-ce que tout au long de ta vie, est-ce que tu peux te dire que tu n'as rien fait de mal ? Jésus, dans sa personne, dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait, disait, il n'a rien fait de mal si ce n'est d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la vérité. Et c'est à cause de cette vérité que Jésus a été mis à la croix. Parce que la vérité dérange. Qu'on le veuille ou pas, la vérité dérange. Mais dans ce texte, j'aimerais, au-delà des actes de ces hommes qui étaient répréhensibles, de ces hommes qui étaient condamnés à cause de leurs actes, j'aimerais voir avec vous les actes que Christ a accomplis à la croix pour nous, pour toi et pour moi. Ces actes, ils sont forts, ils sont importants. La parole de Dieu nous dit que la première chose, Jésus va amener les hommes à réaliser leur mort spirituelle ainsi que les conséquences. Alors qu'ils sont en marche, il y a des femmes qui sont là et qui pleurent et qui se frappent la poitrine comme s'ils étaient déjà pendant un chemin qui amène à la mort, bien évidemment, mais ils étaient là avec une formalité et un formalisme qui était loin de rendre compte de leurs actes. Et c'est pour ça que Jésus se tourne et leur dit « ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants ». Le Seigneur connaissait le cœur de chaque personne et Dieu connaît le cœur de chaque personne qui est présent dans ce lieu ce soir. Moi, je ne connais pas et je n'ai pas à connaître. Et heureusement, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais le Seigneur connaît ton cœur, connaît le mien. Et il sait qu'il peut se tourner vers nous et nous dire « mais mon ami, pleure sur toi-même, pleure sur tes enfants, parce que la réalité, c'est que tant que ton cœur n'est pas en paix avec Dieu, en réalité, tu as un conflit avec Dieu. Un conflit entre les hommes, peut-être qu'un jour va s'arrêter ce conflit. Pourquoi ? Parce que les distances peuvent arrêter un conflit. Peut-être qu'on va prendre conscience, mais combien de conflits sont restés irrésolus ? Combien de situations sont restées bloquées ? Et après, peut-être on a attendu en se disant, mais on va un jour régler. Et après, un jour, l'un des deux, ou voire les deux, leur vie s'est arrêtée. Et les problèmes sont restés. Jésus ne veut pas partir en laissant des problèmes. Jésus veut partir en disant la vérité jusqu'au bout. C'est courageux de sa part, non ? Il aurait pu laisser ses femmes pleurer, se frapper la poitrine. Ça ne changeait rien pour lui, parce que lui, en tous les cas, il était sur le chemin, oui, bien évidemment de la mort, mais de la victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur l'ennemi. Mais Jésus fait par ce discours, par ce peut-être dernier message à la foule, il les amène à réfléchir sur la réalité de leur existence et leur dit « ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, il est trop facile de regarder vers les autres ». Et de ne pas regarder à nous-mêmes. Et lorsque nous voyons ou nous entendons des choses, on regarde vers les autres en disant « mais les autres, ils sont comme ci, les autres, ils sont comme ça ». Mais si on se regardait un peu plus en profondeur, on verrait qu'on n'est pas mieux et que nous aussi, nous avons encore et encore besoin de la grâce de Dieu. On peut voir quelqu'un faire des choses injustes dans la rue et se sentir outré à cause de son comportement. Mais peut-être il y a juste quelques jours avant, on faisait même pire. Après, on est outré parce que quelque chose se passe dans notre cœur, une conscience se réveille. Cette conscience qui a été endormie pendant si longtemps. Mais qui peut réveiller notre conscience si ce n'est pas le Saint-Esprit ? Qui peut réveiller notre cœur si ce n'est pas Jésus ? Et qui peut finalement transformer notre vie, non pas dans des larmes de crocodile ? Vous connaissez pourquoi on dit des larmes de crocodile ? Parce que le crocodile, en effet, il mange ses petits et après il pleure. D'abord, il fait des dégâts et après il pleure. Et nous, combien de fois on fait les choses et après on pleure parce qu'on les a faites ? On aurait dû peut-être réfléchir avant. Et Jésus, en train de leur dire, tant que vous avez encore du temps, réfléchissez. Et Jésus leur dira cette phrase au verset 31. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par ces mots? S'ils ont fait à celui qui est du bois vert, celui en qui il y a la vie de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire à du bois sec, celui qui n'a plus la vie de Dieu dans sa vie? S'ils traitent ainsi le Fils de Dieu, comment il traitera les hommes? Comment ils vont être traités les hommes? Jésus est en train de les interpeller et leur dire « Attention, faites une analyse de votre cœur, faites que tout à nouveau ce que vous êtes retrouve la vie de Dieu. C'est pour votre bien et pour le bien de vos enfants. » Mais la marche continue. La foule, peut-être, elle n'a pas saisi complètement le message de la croix. Jésus avance et lorsqu'il est cloué à la croix avec deux brigands, deux personnes qui n'avaient véritablement rien en commun avec Jésus, si ce n'est à quelque part pour essayer de dire, voyez, Jésus n'est pas mieux que les brigands. Je vous rappelle que avant la condamnation de Jésus, Pilate va proposer une solution. Parce que il se trouve dans une situation difficile. Pilate, il sait qu'il n'y a pas d'injustice en Jésus. Et il voudrait essayer de donner une occasion pour que le peuple change d'idée. Et il prend quelqu'un qui, lui, par contre, ah, il en a fait. Il a fait des meurtres, il a fait des émeutes. C'est quelqu'un de violent, quelqu'un de mauvais, il est en prison. Et il se dit peut-être par ce biais, ils vont choisir, ils vont faire le bon choix. Parfois, on se dit qu'à cause des situations, on choisit le moins pire. C'est vrai ou pas? Mais là, ils vont choisir le pire. Ils auraient pu choisir le bon. Ils auraient pu finalement se dire, mais Jésus est celui qui nous a guéris, Jésus est celui qui nous a nourris. Peut-être que parmi la foule, il y avait des hommes et des femmes qui avaient goûté au pain et au poisson de la multiplication. Mais finalement, ils avaient suivi toujours Jésus de loin et dans un certain intérêt. Ce soir, ce n'est pas l'intérêt qui doit nous amener à Jésus, mais c'est la personne de Jésus lui-même. Ce n'est pas le fait d'avoir ou pas un repas de plus. Parce que certains, en ayant vu ce que Jésus avait fait, le jour d'après, ils le cherchaient. Jésus, t'as été où? On aimerait que le Seigneur s'occupe de nous et que tous les jours, il pourvoie nos aliments et tout ça, nos habits, tout ce que nous avons besoin, matériel, physique, tangible. Mais Dieu est le Dieu aussi de l'intangible. Ce que tu ne peux pas toucher. Et ce n'est pas parce que tu ne le touches pas qui n'existe pas. Et dans ce sens, le Seigneur amène ce peuple à réfléchir. Et alors qu'il est là à la croix, alors que les hommes, ils le maltraitent, alors qu'il y en a qui parlent mal de lui, il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le deuxième acte, c'est implorer le pardon de Dieu pour les hommes. C'est un acte d'amour. Peut-être que nous, on aurait demandé que Dieu fasse descendre le ciel sur la terre. Seigneur, fais-nous justice. Seigneur, tu vois ceux qui nous ont mis en croix, tu vois ceux qui nous ont fait du mal. Ne dites pas que l'idée ne vous a pas effleuré déjà une fois ou deux. Lorsque quelqu'un vous a fait du tort, lorsque quelqu'un vous a fait beaucoup de tort et de souffrance, là où finalement le pardon devient difficile à exercer, à vivre. Pourquoi? Parce qu'on se dit, vu tout ce que j'ai vécu, vu tout ce que j'ai subi, c'est pas question de pardon, il faut finalement une vengeance. Mais Dieu est un Dieu de justice. Et dans sa justice, il est capable de nous montrer le chemin de la grâce. Dans son amour, il est capable de nous montrer le chemin de l'amour. Et là, il ne cherchera pas à agir contre cette foule, et croyez-moi, il aurait pu le faire, en un mot. Comme lorsque ceux qui étaient venus le chercher dans le jardin de Gethsémané vont tous tomber par terre. Mais le Seigneur, il n'est pas venu pour nous faire tomber par terre. Il est venu pour nous relever. Il est venu pour donner de l'espérance. Et le deuxième acte, c'est implorer le pardon de Dieu. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La discussion continue. Les soldats se manquent de Jésus. Les hommes, les religieux, viennent eux aussi en ajouter leurs propres mots, leurs propres considérations. Si tu es le Fils de Dieu, mais sauve-toi toi-même. Encore une fois, Satan essaye, par ceux qui sont devenus finalement des marionnettes entre ses mains, d'empêcher le projet de salut de la part de Dieu. Vous avez déjà lu ce texte qui nous parle des tentations que Jésus a subies au début de son ministère ? Hein ? Vous avez vu les paroles que Satan essaie de trouver pour tenter Jésus et finalement Jésus reste attaché à la parole jusqu'au bout. Et le texte dit que Satan se retira en attendant une meilleure occasion. Quelle occasion, lorsque finalement tout se met contre nous, pour essayer de nous faire tomber. N'avez-vous déjà pas expérimenté le fait que quand déjà vous allez mal, vous avez l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui rajoute du mal? Et si l'ennemi essayait finalement de vous faire tomber, de faire tomber votre cœur, de faire tomber votre foi, en vous amenant à dire ou faire des choses qui finalement vous mettraient en porte-à-faux avec Dieu. Mais le Seigneur, il sait quelle est sa place. Le Seigneur, il sait qu'il est là pour donner aussi un exemple. Et Dieu soit béni pour l'exemple merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. Il agira d'une manière incroyable. Et pendant que ces hommes se déchaînent en parole, en mépris, en violence, alors qu'ils essayent encore de lui faire du tort en lui proposant du vinaigre, là, un des deux malfaiteurs à la croix voudrait trouver un moyen de s'échapper. Et l'autre, il dira quelque chose. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Si on prenait le temps d'examiner nos actes, qu'est-ce que méritent nos actes ? Qu'est-ce que nous pourrions ce soir espérer à cause de nos actes ? Quelle est finalement la condamnation qu'on donnerait à quelqu'un qui a commis les mêmes actes que nous ? Et imaginez un instant de oublier vos actes et de vous trouver devant quelqu'un qui a fait ce que vous avez fait. Je me suis posé cette question. Peut-être qu'en me sentant supérieur, j'aurais pu lui dire, écoute, t'en as trop fait. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Mais là, la question, c'est que Jésus n'a pas ce type de langage. Pourquoi ? Parce que cet homme, malgré tout ce qu'il a pu faire, il prend conscience de ses erreurs. Et Dieu, il est capable d'entendre le cœur de celui qui vient repentant. Est-ce que cet homme utilisera des beaux discours ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il va essayer de dire, mais finalement, je suis mieux que l'autre quand même. Celui qui est à gauche de Jésus, il n'est pas bon. Mais Seigneur, moi, je suis à droite quand même. Hein ? Meilleure position, meilleure inclination du soleil. Seigneur, tu vois, moi je te défends. Mais là, le Seigneur ne cherche pas des mots et Dieu ne veut pas des mots ce soir. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur, le mien. Et cet homme dira, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras venu dans ton règne. Et quelle réponse merveilleuse de la part de Jésus. Est-ce qu'on peut la relire ensemble, verset 43 ? En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh ! Qui veut prendre le ticket ? Hein ? Qui serait prêt ce soir à dire, Seigneur, mais moi aussi, comme cet homme qui n'a pas finalement eu l'occasion de vivre une vie différente, mais là, il est au carrefour de sa vie, il est à quelques heures de quitter sa vie sur la terre et il a eu la meilleure réaction qu'il pouvait avoir. Il reconnaît en Jésus celui qui pouvait lui donner la porte du ciel. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne sais pas si cet homme avait entendu les prédications de Jésus. Je ne sais pas si cet homme avait eu l'occasion de voir Jésus à l'œuvre, voir Jésus guérir des malades, voir Jésus libérer des possédés. Mais quelque chose est sûr, c'est que la personne de Jésus, l'Esprit de Dieu qui était sur Jésus, les paroles de Jésus, les actes de Jésus à la croix ont touché son cœur. Vous savez, dans les paroles, on peut beaucoup dire. Beaucoup se promettent amour. Et le jour d'après, divorce. Pourquoi ? Parce que c'était que des paroles. Mais Jésus n'est pas en parole, Jésus est en acte. Et là, il accepte de se sacrifier, lui, pour que nous, nous soyons sauvés. Le quatrième acte de la croix que Jésus fait, c'est celui de glorifier Dieu par son obéissance en sauvant les hommes par son sacrifice. Jésus s'écria, dira le verset 46, d'une voix forte, « Père, je te remets mon esprit entre tes mains. » Qui ce soir est prêt à remettre son cœur entre les mains de Dieu ? Pourra te dire, « Ouais, mais Jésus a remis son esprit, tu veux mourir ce soir ?» Seigneur, ne te demande pas de mourir ce soir, si ce n'est de mourir à toi-même. Et si ce soir, comme Jésus, tu remettais ton cœur entre les mains de Dieu ? Parce qu'il est le seul qui puisse véritablement changer ta vie. Et au moment où Jésus fera ça, il va finalement donner son dernier souffle de vie. Et là, il y a quelque chose de particulier, alors que Jésus est en train de glorifier son Père en disant, « Seigneur, pour moi, c'est toujours toi qui as autorité dans ma vie. » Est-ce que Dieu a autorité sur votre vie ? Un peu, beaucoup, passionnément, à l'infini ? À quel pourcentage ? 100%, 1000%, ou il y a encore un pourcentage qui a besoin finalement de capituler ? Est-ce qu'il y a un pourcentage que ce soir tu devrais donner au Seigneur, dire « Seigneur, jusque-là je t'ai donné 40, 50, 60, 80, 90 ». Dieu ne veut pas, même pas, il n'est pas d'accord d'accepter 99. C'est 100%. Parce que lui, à la croix, il a donné 100%. Et là, finalement, il est question pour lui de donner son dernier souffle. Et dans ce dernier souffle, il glorifie son Père. Et qu'est-ce qu'il produit ce dernier souffle, ce dernier acte de Jésus ? Il dit la parole de Dieu qu'en disant ces paroles, le ciel qui était devenu ténèbres sur toute la terre, le soleil s'escurcit, le voile du temple se déchira de haut en bas, la terre trembla. Il y a des pierres qui se sont roulées, qui étaient devant finalement des tombeaux, des morts qui sont ressuscités. Lisez dans les autres évangiles, c'est beau de voir les évangiles, la manière qu'ils nous rapportent les choses. Et là finalement, celui qui juste avant disait à Jésus, « Mais si tu es le Fils de Dieu, descends », le centenier lui-même dira à la vue de ceux qui étaient arrivés, « Il glorifia Dieu ». Je vous rappelle que les Romains étaient loin d'être adorateurs de Dieu, l'Éternel, le Dieu des Juifs, le Dieu qui est le tien et le mien. Ils avaient une panoplie d'idoles. Et là, finalement, cet homme, il glorifie Dieu. La présence de Dieu dans notre vie devrait procurer finalement aux autres l'envie de glorifier Dieu exactement. Parce que, il est question pour nous d'agir comme Christ, il a agi. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, ce soir, à dire, Seigneur, je te donne tout ? Parce que finalement, Jésus, il a tout donné. Hein. À 33 ans, je pense qu'il était en fleur de la jeunesse, non ? Oui ou non ? Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Sa tête a porté une couronne d'épines, son dos a reçu des coups. Sa barbe a été arrachée, des gifles, des coups de poing. On a percé son côté. Je pense qu'on peut, on est loin d'imaginer ce que ça doit produire. Et jusqu'au bout, Père, je te donne ce qui me reste, le dernier souffle. Que le dernier souffle de notre vie soit celui qui encore honore et glorifie Dieu. Et que comme le Christ l'a fait, nous puissions nous aussi être reçus de la part du Seigneur en disant, « Ok, tu as été fidèle jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu n'as pas gardé quelque chose pour toi-même, mais tu as tout donné. » Peut-être je me répète, mais avez-vous tout donné ? Ça vous est déjà arrivé de vouloir faire un achat et finalement vous vous rendez compte qu'il vous manque juste un petit centime ou deux ? Hein ? Mais là, mon frère, mon ami, ce n'est pas un centime ou deux qui te manque. Pour payer ta dette, il manque une somme qui ni toi ni moi nous pouvons payer. Et pour que tu sois sauvé, c'est le Seigneur qui dit, voilà, la dette est payée. J'ai donné ma vie, mon sang a coulé. Par toi-même, tu ne pourras pas te sauver. C'est en faisant comme Christ a fait, Seigneur, je te donne ma vie. Et Christ lui-même viendra finalement poser son sceau, sa grâce, son amour, sa bonté. Cet homme dira finalement, réellement, cet homme était juste. Et la foule qui était venue assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retourna en frappant la poitrine. Moi, j'espère que parmi cette foule, il y en ait qui se soient rendus compte de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient finalement pris comme décision. Alors, pourquoi Jésus a fait cela? Et qu'est-ce que Jésus attend de nous? J'aimerais lire un deuxième texte qui se trouve en Hébreux, chapitre 2, les versets 5 à 18. Et je vais le commenter à fur et à mesure pour ne pas être long. Le texte nous dit ceci à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Finalement, Christ a voulu manifester l'amour de Dieu pour les hommes. Et il continue, parce que Jésus a tout fait pour nous. Regardez la suite de ce texte. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, en lui soumettant ainsi toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises, mais celui à qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert ainsi, par la grâce de Dieu. Il a goûté la mort pour tous. Il s'est donné pour nous. Il convenait, dit le texte, en effet, à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Quel honneur pour nous d'être appelés frères. Il a voulu nous sanctifier, nous offrir l'honneur de devenir enfants de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée » et encore « Je placerai ma confiance en lui » et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Si vous imaginez le jour où on se retrouvera devant Dieu, la joie de notre Seigneur de nous avoir finalement avec lui, car il dira « Père, je veux que là où je suis, il soit avec moi ». Qui veut être avec le Seigneur? Qui veut finalement faire ce pas? Par son sacrifice, Christ a vaincu le péché, la mort et le diable. Verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participant au sang et à la chair, là aussi, d'une manière semblable, à y participer, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » La peur, le royaume de la peur, la volonté de l'ennemi de vous garder, nous garder dans la peur. Combien aujourd'hui vivent dans la peur? Peur de mourir, si je meurs, où est-ce que je vais? Et là, le texte nous parle que finalement, le Seigneur, lui, il a vaincu le pouvoir de la mort. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de la vie. Et lorsque le pouvoir de la vie, le pouvoir de la présence de Jésus, la vie de Jésus est dans ton cœur, dans ta vie, tu n'as plus peur de la mort. Pourquoi? Parce que la mort n'est plus rien pour toi. Parce que ce qui t'attend, c'est l'éternité avec le Seigneur. Ce n'est pas la crainte de dire « je ne sais pas où je vais » ou « peut-être je vais dans un trou ». Non, non. Tu te retrouves au ciel, le même endroit où cet homme à la croix, il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Qu'est-ce que Jésus lui a ouvert? Les portes du paradis. Et tu ne crois pas que le Seigneur veut aussi les ouvrir pour toi ce soir? Le salut est une aide et un secours immérité que Dieu offre aux hommes. Et le texte nous dira ceci, « Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. » Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. S'il y en a un qui te comprend, vraiment, s'il y en a un qui peut te justifier, s'il y en a un qui peut te sauver, s'il y en a un qui peut te relever, s'il y en a un qui peut redonner du goût à ta vie, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. S'il y en a un qui peut changer ta vie une fois pour toutes, c'est Jésus. Parce qu'il sait exactement où tu en es. Il sait ce que tu vis. Peut-être tu te dis, personne ne sait ce que je vis. Mais le Seigneur, lui, il le sait. Crois-moi. Est-ce que tu souffres? L'injustice que tu as pu ressentir? Le rejet que tu as pu vivre? Lui, il l'a vécu aussi. Lis la parole de Dieu, tu verras. Il a vécu même pire. Mais le Seigneur, ce soir, ne veut pas que toi tu restes dans le pire, mais que tu rentres dans le meilleur, dans le projet de Dieu pour toi, dans le projet que lui, il a accompli à la croix pour que toi et moi, nous puissions, par sa grâce, nous présenter devant lui et vivre finalement le paradis. Qu'est-ce qu'est le paradis? Le paradis, ce n'est pas ici-bas. Hein. Même si nous vivons une belle région, hein. Même si nous voyons des beaux oiseaux voler et tout, ce n'est pas le paradis. Hein. Oui ou non? Le paradis, c'est un endroit où le mal n'a plus sa place, où la souffrance n'existe pas, où la peine, on ne sait plus même pas ce que c'est. Où finalement Dieu règne et tu peux t'approcher de Dieu, tu peux aller aux pieds de Dieu, tu peux aller dans les bras de Dieu et tu peux sentir son amour te déborder. Alors je voudrais vous inviter ce soir à fermer vos yeux. Et simplement si quelqu'un veut faire le pas de dire « Seigneur, moi je veux connaître cet amour débordant dans ma vie. Seigneur, je veux être celui qui encore ce soir fait le pas de te donner mon cœur. Seigneur, non pas un petit pourcentage, mais la totalité. » Je voudrais inviter simplement tout le monde, garde les yeux fermés, par respect, laisser la liberté à chacun de prendre son engagement personnel avec Dieu. Le salut, c'est personnel. Mais tout simplement de lever votre main à votre place et on va prier ensemble en disant « Seigneur, voici une main qui se lève pour toi. Voici un cœur qui se tourne vers toi. Voici une vie qui se donne à toi, Seigneur. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. » Peut-être ce soir, quelqu'un a besoin du secours de Dieu dans les difficultés qu'il vit, dans les épreuves. Et je voudrais t'encourager à dire, Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi. Viens me secourir, Seigneur. Viens me toucher dans ma santé. Viens toucher mon foyer, Seigneur. Viens toucher ma famille, Seigneur. Viens toucher le cœur de mes enfants. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons prier celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Ta parole nous dit que tu as tout soumis à ton Fils. Seigneur, tu as mis entre ses mains toute autorité. Et nous croyons qu'encore ce soir, le nom de Jésus est autorité et puissance. Parce que dans ce nom précieux, dans la personne de Jésus-Christ, dans le sacrifice qu'il a accompli à la croix pour nous, il nous a accordé, oui, en lui, la victoire sur la mort. Il nous a délivrés de l'emprise, de la peur, et de l'emprise que le diable pouvait avoir dans notre vie à cause du péché. Et ce soir encore, Seigneur, pour ceux qui te demandent pardon, pour ceux qui demandent ton secours, Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour agir. Et nous proclamons ta grâce dans la vie de chacun, Seigneur. Tu es le Dieu de la guérison. Et encore ce soir, Seigneur, tu touches le cœur et l'âme de celui qui s'approche de toi, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il te le demande. Et parce que tu as promis d'être ce Dieu miséricordieux, tant que nous pouvons dire aujourd'hui, Seigneur, il est le temps de la grâce. Nous ne voulons pas attendre, Seigneur, que notre dernier souffle soit parti, alors que là, nous pourrons pour rien, ni nous pour nous-mêmes, ni les autres pour nous. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux encore te dire, Seigneur, prends soin de mon âme. Touche mon cœur, change ma vie, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, te plaire. Que je puisse être celui que toi tu veux, Seigneur. Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacun de nous. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.